Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport, on est ensemble jusqu'à la mi-journée, évidemment, jusqu'à midi, vous le savez. On est avec Alizé Cornet, on est avec Julien Beneteau, on est avec Marc Madio. On est encore en train de parler des watts. Là, franchement, c'est ce qui nous a fait vibrer hein, depuis quelques instants. Non, mais on va avoir peut-être que des robots hein, dans quelques temps. Non, tu penses pas, Benet? Ça te fait pas peur? Ouais. Les robots entraîneurs et tout. On en avait parlé.
Entraîneur, ça me dérange pas. Moi.
En baseball, il y en avait un. On en avait parlé.
Mais non, mais chacun vit avec son époque. À un moment donné, c'était quand les statistiques sont arrivées au baseball, il y a un entraîneur, un manager qui a fait son équipe que grâce aux statistiques. Il y a un film avec Brad Pitt.
C'est pas Moneyball.
Voilà, Moneyball. Ouais. Bon, c'était à son époque.
En français.
Ouais. Voilà, c'était à son époque, c'était ça. Aujourd'hui, mais en compétition.
Ouais. Ouais.
Enlevons.
On voulait en parler aujourd'hui, on en reparlera certainement les prochains week-ends dans les grandes gueules du sport, mais Luis Enrique a confirmé hier, par exemple, que le PSG utilisait l'IA, en tout cas pour avoir le plus d'informations possibles, notamment sur connaître les espaces possibles sur le terrain, en étudiant l'adversaire avant le match, pour savoir comment mieux attaquer ces espaces pendant le match. Quoi. Donc ça va
comment
être
arroser une pelouse, l'IA, non, ils n'ont pas pris.
Il n'y avait plus de batterie dans l'IA. Ah non, mais quand c'est une bonne vanne, j'accepte. Hein. Tiens, d'ailleurs, on parlait de robots. Notre producteur Maxime Abolin m'envoie une vidéo. Il me montre qu'un robot chinois a parcouru un 100 mètres en seulement 9 secondes 39 lors des Jeux mondiaux des robots humanoïdes à Pékin. Ça existe.
Mais où va le monde,
les
gars?
Les Jeux mondiaux des robots humanoïdes. Ça existe. 9,39, plus rapide que Bolt. Mais il était un robot, mec. Évidemment, c'est facile pour toi. Voilà. Dans une journée, d'ailleurs, on a la finale des championnats du monde de e-sport aujourd'hui à Paris. Ça attire très grand monde. Eh ouais.
Ah ouais,
Marco. Tu peux y aller jouer à Pro Cycling Manager.
Ah non,
si t'es vraiment
non,
un bon manager.
Ouais, non.
Ce serait énorme.
Pour mon trip.
Dans un instant, les GG sur le buzzer. La Formule 1 avec le Grand Prix des Pays-Bas à 15h sur RMC Norris en pôle. Que doit faire la F1 avec ses circuits alors que Zandvoort, un tracé historique, va disparaître. Je vous rappelle qu'il y a quelques instants, la France a gagné le titre mondial pour la première fois de son histoire en double mixte en badminton. C'est pour Delphine Delru et Tom Jiquel. On attend tout à l'heure Alex Lagné en simple, évidemment. Pour suivre ça, ce serait une première fois dans l'histoire. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, remportez un bon cadeau de 50 euros à valoir sur Agfa Photo Print. L'intelligence artificielle est interdite, les amis, hein, pour répondre au jeu. Je dis ça pour Mario Bartoli, dont j'ai quelques doutes parfois. Pour remporter votre bon cadeau, Agfa Photo Print, appelez le 3216 touche 4, envoyez sport au 73216, sport au 73216. Ah, mais tu sais que après, elle est très forte, hein, ce qu'elle dit. Mais non, c'est pas vrai. En revanche, je suis capable de dire que. En 1997, on a couru en 1 seconde 57. C'est très précis quand même. Allez, tout de suite, les GG. Vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Alors le vestiaire, c'est toujours le dimanche, vous le savez, votre rendez-vous qui ne bougera pas, même si le samedi vous avez la grande gueulante désormais qui vous accompagne. Et donc dans le vestiaire léger cette semaine, ce qui nous a marqué, ce sont les hauteurs atteintes en saut à la perche en athlétisme au meeting de Ligue de Diamants à Lausanne, c'était il y a quelques jours. Alors rien de nouveau pour Armand Duplantis qui reste le meilleur, il a passé un saut à 6m21, mais derrière lui, son principal rival, le grec Karalis, a passé 6m16, et c'est la première fois dans l'histoire de la perche que deux athlètes passent 6m10 dans le même concours déjà. Mais c'est historique aussi parce que il y a 9 participants dans ce concours qui ont atteint ou dépassé 5m80. Alors il y a les conditions très bonnes à Lausanne, on le sait, mais pendant toute la saison, les chiffres en tout cas montrent une densité derrière Duplantis jamais vue sur le saut à la perche. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça, le champion qui vous fait aller plus haut, parce qu'on a parlé, on a beaucoup parlé des champions qui écrasent peut-être comme Pogacar. Est-ce qu'il y en a qui vous emmènent, qui vous inspirent et qui vous font passer des étapes? Alizé, toi, ça te parle quand t'entends ce qui se passe à la perche avec Duplantis? Est-ce qu'il y a des adversaires, des joueuses qui t'ont fait passer, des championnes qui t'ont fait passer des caps, tu penses, dans ta carrière?
Il y a
toujours des champions et des championnes qui sont tellement inspirantes et inspirants qu'ils t'entraînent en fait, qu'ils ont envie, ils te donnent envie de leur ressembler en fait.
Des champions que tu croises dans ta carrière.
Et en plus, ça peut être dans le tennis, mais ça peut être dans d'autres sports. C'est ça qui est fabuleux aussi. Alors, c'est plus facile de s'identifier quand on est joueur de tennis et qu'on admire un autre joueur de tennis. Mais moi, je trouve que dans des attitudes, psychologiquement, dans l'audace, le courage, on peut aussi s'identifier à d'autres champions. Et un grand champion, c'est aussi celui qui sait inspiré. Moi, dans ma carrière, il y a eu beaucoup de joueuses et de joueurs que j'ai admirés et qui m'ont fait être une meilleure joueuse. Quand j'étais petite, quand j'étais ado, j'étais une grande fan de Andy Roddick, par exemple. Alors, ça peut paraître un petit peu bête, mais sur le court, quand je pensais à lui, j'avais de la force. Je me disais, il faut que je fasse comme Andy. Je suis une showman. Je peux faire le show. Je me souviens, je limitais au niveau de ses gestes. Je servais comme lui, pas en termes de vitesse, mais en termes de gestuelle. Et j'ai eu comme ça des champions qui ont jalonné ma carrière et qui m'ont donné de l'énergie. J'ai eu ma période Mourova, par exemple. Pas plus tard qu'il y a 3-4 ans, quand elle a fait finale à Roland-Garros. Quand je voulais être calme sur le terrain, je pensais à elle. Je disais, allez, tu fais comme Mourova.
Donc, tu observes beaucoup les autres.
J'ai eu Simona Halep, Justine Hénin. Et en fait, dans cette observation, j'ai puisé en fait, des choses qui m'ont inspirée en tant que joueuse et qui me donnaient des outils pour être meilleure.
Mais par exemple, tu as joué contre Serena Williams. Tu as battu Serena Williams.
Ça, c'est encore autre chose. De battre Serena Williams m'a donné confiance en moi et m'a fait me rendre compte que je pouvais passer dans une autre dimension et que je pouvais rivaliser avec ces joueuses-là. Alors ça, elle a pas vraiment voulu m'inspirer, cette pauvre Serena, puisque elle s'est fait battre. Mais en tout cas,
Duplantis ne pas forcément inspirer les autres en les éclatant.
On arrive à se mesurer à ces champions-là et quand on arrive à les battre,
à s'en rapprocher au moins.
À s'en rapprocher, à les battre, ça nous fait réaliser plein de choses sur nous-mêmes. Et c'est vrai que ça peut complètement tiré vers le haut, ça peut faire passer dans une autre dimension, passer un cap. Donc il y a vraiment des champions qui inspirent de différentes manières. Et c'est génial de rester dans cette observation et de vraiment donner du temps à son sport. Moi j'ai donné beaucoup de temps à l'observation de mon sport, à regarder du tennis à la télé. J'en ai pas loupé une miette. Et je pense que ça m'a plutôt apporté des choses.
Tu regardais les matchs de Simona Halep avec un petit carnet, tu t'es dit ça, faut que je le prenne, ça, faut que je le prenne.
Mentalement, je pense que je vais le prendre. Je vais le prendre pour moi. Et si un jour je la joue, je saurai que ça, elle aime pas, par exemple. Et ça fait devenir meilleur, forcément.
Marc Madiot, les champions qui font aller plus haut. T'en as croisé des champions.
Oui.
T'as été dans une équipe de Galactique, chez Renault.
Hino, Fignon. Lemon en même temps dans la même équipe.
Que des vainqueurs de Tour de France.
Ouais, et c'est inspirant parce que il y a un défi quotidien quand t'es en stage avec ces coureurs de ce niveau. Tu es obligé d'augmenter ton niveau. Il y a une on parle beaucoup de l'équipe UAE aujourd'hui qui domine le peloton, mais c'est logique et normal. Quand on a un leader comme Pogacar, tout le monde dans cette équipe monte d'un cran, que ce soit l'encadrement comme les coureurs, tout le monde monte d'un cran. Et si par malheur, à un moment ou à un autre, Pogacar se retrouve en difficulté, vous verrez, l'équipe va se replier sur elle-même. Moi, je l'ai connu chez Renault avec... alors, Hino était parti de l'équipe, c'était en 84. Il restait Fignon et Lemon dans l'équipe. On a gagné 10 étapes sur le Tour de France.
Vous étiez l'équipe UAE d'avant.
On était même au-dessus.
Plus fort, bien sûr.
L'année d'après, la même équipe, moins Fignon, on n'a pas touché une bille. C'est Hino qui nous a mis une raclée.
C'est hyper intéressant.
Donc, c'est forcément important. Il y a une dynamique,
en fait.
Ouais. Et une identification à l'équipe.
Mais toi, tu disais quoi quand tu étais avec eux, par exemple? Faut que je l'étape.
Déjà dans le vestiaire, quand tu mets le maillot Renault Elf de l'époque, tu mets pas le maillot d'une équipe lambda. Quand tu arrives sur la ligne de départ avec le maillot Renault Elf, les seuls que tu observais avec qui tu traitais d'égalité à égalité, c'était les tirs à l'aigle. Mais les autres, on ne les regardait pas. On se sentait supérieur. L'année d'après, quand le blaireau était dans l'autre camp, c'est nous qui prenions une raclée. C'était l'équipe de la vie verte.
En fait, de traîner avec des champions, ça te donne une prétention presque.
Mais bien sûr, une fierté.
Et ça te fait progresser.
Une fierté. Ça te fait progresser.
Parce que tu dis qu'il n'y a pas de plafond de verre, en fait.
Il n'y a pas de plafond. Et parce que
tu vois comment ils fonctionnent aussi. Je pense que quand t'es...
Il y a une force qui s'installe. Il y a un rapport de force qui s'installe.
Mais t'osais les taper, les Hino, les Lemon, même toi, plus jeune qu'eux, par exemple?
Alors, tu allais te mesurer. Moi, je me souviens, je l'ai évoqué ici à plusieurs reprises, les réflexions de Laurent Fignon par rapport à Bernard Hinault. Bernard, t'as qu'à aller t'entraîner. Alors que le blaireau, il avait pas aimé.
Oui, parce qu'il
s'est... Et les semaines d'après, c'était plus la même.
Oui, donc en fait, tu te...
Donc il y avait un entraînement, un enchaînement qui faisait que tu te grandis. Et puis il y a aussi le mimétisme, et je te rejoins, Alizé, là-dessus, en observant les autres.
T'as beaucoup observé, toi ?
Ah, mais par exemple, moi je me rappelle encore aujourd'hui, et ça remonte dans le temps, ça fait une quarantaine d'années, le poignet couché sur les cocottes de frein de Roger Devlamain qui baissait ses cocottes de frein pour avoir un cassé du poignet et être plus aéro sur le vélo.
Celui qui a le plus gagné Paris-Roubaix, Roger Devlamain.
Ouais, et c'était un mythe sur quand tu vois une photo de Devlamain qu'aujourd'hui, il est pas du tout démodé, Devlamain.
Surtout que toi, en plus, c'était ton type de coureur. Oui, mais toi, tu voulais gagner Paris-Roubaix,
je voulais gagner
derrière.
Je regardais Devlamain, mais quand j'étais encore gamin, je regardais la position d'Ocaña sur le vélo qui s'avançait sur la selle. Donc, gamin cadet, même pas cadet, j'avançais sur la selle pour pédaler pour m'identifier à ce qu'était Ocaña. C'était pas forcément la meilleure position, mais je m'identifiais.
T'es formé par les champions, en fait.
Mais bien sûr, t'es influencé, t'as envie de ressembler. Instinctivement, tu vas chercher quelque chose sur les sportifs que tu vois à l'écran.
Mais par exemple, tu penses que t'aurais gagné deux fois Paris-Roubaix si t'avais pas eu cet environnement ultra compétitif autour de toi? Est-ce que ça aurait été plus dur, en tout cas? Parce que c'est ça aussi, l'environnement t'aide à être plus performant.
À franchir des barrières. Et l'environnement t'enlève le doute. Le fait d'être dans une équipe comme Renault, avec les coureurs que j'ai cités tout à l'heure, le fait d'être dans une équipe comme celle-là t'enlève le doute. Tu n'as pas droit à la médiocrité. Tu n'as qu'un devoir, c'est d'être le meilleur. Donc,
en fait, tu l'exclus, la médiocrité.
Et tu exclus la médiocrité. Quand tu rentrais en briefing avec Guimard, il inversait les choses. Il te laissait penser que tu n'étais pas assez bon ou que l'équipe n'était pas la meilleure pour tirer le meilleur de l'équipe. Et il te mettait en situation de domination.
L'un des meilleurs exemples qui illustre ce que tu dis, Georges, c'est quand même la domination du Big Three au tennis aussi. Et ces joueurs qui se sont tirés mutuellement vers le haut parce que justement, il n'y avait pas de place à la médiocrité et qu'il fallait qu'à chaque fois l'un soit meilleur que l'autre, ils n'auraient jamais gagné autant de grands chelems, que ce soit Novak, Rafa ou Roger, si les deux autres n'avaient pas existé. En fait, là, c'est vraiment typiquement l'illustration même de le champion qui fait monter la concurrence.
Oui, ils ne seraient peut-être pas allés aussi haut dans le nombre de grands chelems qu'ils ont aujourd'hui s'ils n'avaient pas été tous les trois ensemble. Le champion qui vous fait tirer vers le haut, on est dans le vestiaire. T'es pas d'accord, Bennett?
Sur le nombre de grands chelems, je ne suis pas forcément d'accord, parce qu'ils étaient tellement forts qu'ils auraient
peut-être
gagné.
Peut-être sur le niveau de jeu, alors.
Mais sur leur niveau de jeu.
Ouais, peut-être. Non, mais par exemple, je te le concède.
Non, mais on a en plateau dans les grandes gueules du sport quelqu'un qui a battu Serena Williams, quelqu'un qui a battu les meilleurs du monde, qui a gagné des monuments en vélo. Et toi, t'as battu Roger Federer, par exemple, Bennett. Non, mais c'est un truc quand même.
Je m'en souviens super bien à Bastille.
Parce qu'on parle des champions qui vous font aller plus haut. Quand tu joues contre un champion, est-ce que inconsciemment, ton curseur n'est pas au même niveau?
Tous les curseurs ne sont pas au même niveau. Parce que si tu veux avoir une chance, inconsciemment, tu les montes.
Parce que là, c'est ce qui se passe avec les perchistes face à Duplantis.
Ouais, exactement. Et ils les montent, eux, dans leur préparation et dans leur méthode d'entraînement, certainement, pour aller chercher des performances plus hautes.
Et toi, tu te sens comment quand tu rentres sur le terrain face à Federer? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui se passe de différent?
Je me dis que si je veux avoir une chance, le match, on l'a préparé d'une certaine manière, il y a des choses à essayer de mettre en place, et une fois que tu arrives à les mettre en place, après, pour les garder, pour aller chercher le petit truc, il faut être dans un niveau d'implication, de concentration qui est extrême.
Et t'es dans une concentration inhabituelle, en fait.
Exactement. Et en fait, le plus dur, c'est d'arriver à retrouver ce niveau de concentration extrême. Comment tu le fais? Est-ce que tu, à l'entraînement, tu dois être encore plus exigeant sur certaines choses?
Oui, mais comme tu sais que t'es arrivé là, tu sais que tu peux le faire, en fait.
Oui.
Tu t'es montré que tu pouvais le faire.
Oui, mais c'est la grande différence. Après, c'est-à-dire que, tout à l'heure, on comparait avec les données, les watts, la différence entre le tennis et le vélo. C'est-à-dire que si physiologiquement t'es capable une fois de tenir le Tourmalet ou l'Alpe d'Huez à tant de watts avec les meilleurs, tu te dis ok, je vais essayer de refaire des séances d'entraînement qui vont me permettre d'atteindre ces niveaux-là. Comme ça, après, je vais les refaire. Au tennis, il y a le jeu en lui-même, c'est-à-dire que moi, momentanément, j'étais capable de hisser mon niveau de jeu à celui de Roger Federer, mais avec mon style de jeu, j'avais pas de marge contre quelqu'un qui était 50e, 60e, 80e mondial.
Et en plus, tu le jouais pas tous les jours, Federer.
Et Federer, et les mecs, je jouais pas tous les jours. Là où Arthur Fils, on parlait tout à l'heure, il est en train de développer une force physique, mentale et de tennis qui fait que il perd pas contre les autres. Moi, je dépensais autant d'énergie pour battre un mec au premier tour 60e mondial que pour essayer de battre Federer. Tu vois, il y a aussi la qualité tennistique, le style de jeu qui fait que c'est
la
différent.
Marge, ouais.
Et fils, il progresse parce qu'il affronte de plus en plus de top 10. Mais, il va de plus en plus loin.
Jouer avec eux, de jouer contre eux et de s'entraîner avec eux. Ouais. Et sur les tournois, le truc, c'est
même
c'est
de s'entraîner avec eux. Mais non, ah oui, ça joue.
Bah oui, tu t'habitues à la qualité de balle, tu t'habitues à la vitesse de la balle, tu t'habitues à l'intensité.
Parce que les mecs à l'entraînement, les champions, ils envoient.
Bien sûr.
Je sais pas, c'est les entraînements.
Ce que tu reçois dans la raquette, c'est toujours la même chose. Ils vont mettre.
Tu t'es beaucoup entraîné contre des gros, mais c'est un cercle fermé, tu sais comment c'est, les tops vont ensemble, les tops vont ensemble.
C'est vrai. Ah ben t'as intérêt à être pote avec l'un d'eux.
Mais bien sûr, moi j'ai discuté avec
des sectes.
Non mais et puis ils ouvrent très.
Parce que la perche, là, ils sont tout le temps ensemble, en fait, justement.
Exactement.
La perche, ils sont tout le temps ensemble. Exactement. Les mecs, c'est une famille.
Ils se hissent tous
vers le haut ensemble. Quand il y en a qui fait deux, ils font, ah, c'est super, t'as fait deux, c'est génial. Mais, il y a une idée de la progression ensemble. Donc, les top 10, les top 20 ensemble, c'est hyper intéressant,
Il y a quelques années, Yannick Sinner était encore très jeune. Il était entraîné par un Italien, Riccardo Piatti. Et à l'Open d'Australie, je discute avec Riccardo Piatti sur les méthodes de préparation de Sinner. Et c'était à l'époque où, il y avait eu le Covid et les bulles sanitaires à Melbourne, en Open d'Australie, où avant d'arriver au tournoi, il devait passer 15 jours au même endroit avec un seul joueur pour s'entraîner. Piatti, des semaines en avant qu'ils ont su ça, il a contacté le clan Nadal en disant « Est-ce qu'on peut faire les 15 jours avec vous ?» Malin. Mais Sinner, à l'époque, il était 30e, 40e mondial. Il avait 18 ans. Ils ont fait ça. Il m'a dit « On a fait 15 jours. » Et je lui dis, alors, c'était comment? Il me dit, écoute, Nadal jouait beaucoup. Et donc, moi, ce que j'ai demandé à Sinner, c'était que sur le premier jour, il mette la même intensité que ce qu'il sera capable de faire dans 14 jours, quand il aura joué pendant pratiquement 14 jours de suite. Il y avait peut-être une demi-journée de repos, par-ci, par-là. Avec l'intensité et la qualité de frappe que va mettre Nadal à l'entraînement. Et il dit, pour moi, c'était primordial qu'il puisse tenir dans la durée.
En fait, c'est intéressant parce que peut-être que Sinner, cette semaine avec Rafa, ça lui a fait passer des niveaux aussi.
C'est un accélérateur.
Et ça fait partie des explications de son émergence dès le jeune âge. C'est tout de suite, il a invité dans le sérail, comme tu disais.
Mais évidemment, l'année dernière, Alexandre Muller, qui a fait une super saison, cette année, il est un peu plus dans le dur, mais qui avait gagné son premier tournoi à Hong Kong, etc. Il disait qu'il avait eu l'opportunité de jouer avec des mecs un peu plus forts que d'habitude à Dubaï dans la préparation. Et que de voir qu'à l'entraînement, tu prends pas 6-2, mais tu fais 6-4 ou 7-5, et que deux jours après, tu rejoues avec le même mec et que tu lui tapes un 7 à l'entraînement, il s'est prouvé, il s'est dit, tiens, l'intensité, je commence à m'habituer, j'arrive à tenir ce niveau de jeu, et tu débloques des choses.
Alizé, on parle de ces champions qui vous font aller plus haut dans le vestiaire.
Et il y a cet aspect-là, et il est indéniable, mais je trouve qu'on pourrait pousser la chose un peu plus loin, c'est qu'un champion, il devient inspirant si on a la curiosité de s'y pencher aussi. Par exemple, un Novak Djokovic qui a poussé tous les curseurs de la performance jusqu'au plus haut sommet, à un moment donné, je pense qu'on arrive à progresser si on regarde aussi ce qui se passe chez les champions. Qu'est-ce qu'il a poussé comme curseur? Qu'est-ce qu'il fait de mieux que les autres? En fait, si on s'y intéresse pas, à un moment donné, on peut faire du mimétisme, on peut essayer de recopier, on peut s'entraîner avec les meilleurs.
On gagne pas tout seul quand même.
À un moment donné, il faut se pencher sur ce que font les champions de différents. Et en fait, cette curiosité-là, je pense que c'est une grande force.
Djoko, c'est le meilleur exemple possible. Alors, je me souviens, moi, c'était 2008 ou 2009, on était sur circuit. Devant lui, il avait Federer, Nadal, qui était à leur prime. Les mecs, c'était des monstres. Federer à Wimbledon, il perdait jamais jusqu'à ce que Nadal le batte. Nadal perdait jamais à Roland-Garros. Il se partageait l'Open d'Australie, l'US Open. C'était monstrueux. Et l'autre, il est là, il est troisième mondial. Il a 21 ans ou 22 ans à l'époque, 87. Et là, il dit, je vais être numéro un mondial. On était en pleine saison d'été aux États-Unis. Je sais plus, je crois que c'était Toronto. Et là, moi, dans ma tête, quand je lis ça, je me dis, putain, mais le mec, il est couillu, quoi. Non, mais... Et devant lui,
tu t'es dit autre chose.
Mais je me suis. Mais après, je le voyais s'entraîner entre les matchs. Et quand Alizé disait, il faut se pencher, qu'est-ce que je fais? Il avait un service pas terrible. Il avait pris Todd Martin, un ancien joueur américain, pour le service, etc. C'était une catastrophe.
il l'a entre guillemets viré, il est revenu, il a cherché, il a pris des risques. Putain, mais la progression tennistique de ce mec-là, elle est monumentale.
Et après, t'es obligé d'observer sa façon de travailler. Du coup, tu dis, il faut faire comme lui. Donc, c'est en ça qu'il te tire vers le haut. Il regarde les jeunes coureurs, Marc. On regarde encore beaucoup aujourd'hui. Je sais pas. Tiens, je vais utiliser la même position que Remco.
Oui, bien sûr.
Le matos aussi, oui. Aussi la dimension matérielle
en
vélo.
Mais oui, bien sûr. Bien sûr. En plus, aujourd'hui, il y a plus de moyens à disposition pour observer ce qui se passe. Chez tous les coureurs. Donc,
qui te tirerait vers le haut, toi, aujourd'hui, comme coureur? Qui tu regarderais? Qui tu conseillerais de regarder, un jeune coureur? Bon, tu parles souvent de Van Aert et de Van Der Poel, ouais, par exemple.
Oui, ce serait plus ce style de coureur parce qu'ils ont une palette d'évolution dans tous les domaines et sur tous les terrains. Donc, c'est ça qui est intéressant avec ce style de coureur. C'est-à-dire que leur capacité d'adaptation s'adapte à tous les styles de coureurs. Si on se réfère à Pogacar, même si Pogacar est presque comme les deux autres, il y a beaucoup. Ou par exemple, si on regarde un Vingegaard, il est quand même très typé Vingegaard. Il essaie d'un peu évoluer, mais ouais. Un jeune coureur aujourd'hui, il faut s'inspirer de la culture cycle. En fait, c'est un problème de culture. Quand on s'appelle Van Aert ou quand on s'appelle Van Der Poel, on est forcément issu d'un endroit où il y a une vraie culture. Et la Belgique et la Hollande, enfin les Pays-Bas, c'est quand même des endroits où il y a une culture cycliste extraordinaire.
C'est pas pour rien que eux l'hiver ils font du cyclocross.
Ils font du cyclocross ou ils vont sur la piste ou mais il suffit de se rendre dans les Flandres à certaines périodes de l'année pour se rendre compte de ce qu'est la culture cycliste. Et ça on l'a beaucoup moins chez nous, moins en Italie ou moins en Espagne.
Oui, t'as les inspirations qui sont plus nombreuses effectivement quand t'es dans cet environnement là aussi. Les champions qui vous font aller plus haut, c'était passionnant de vous écouter. Les GG, vous retrouvez évidemment le vestiaire en podcast dans tous les sports. En plus ça se passe comme ça, hein. Voilà, on va parler de Formule 1 dans un instant. Alain Prost et Ayrton Senna se sont forcément inspirés l'un l'autre en s'observant et du coup sont allés chercher plus loin. Hamilton et Verstappen plus récemment et en se jouant souvent, ils progressent. Tu parlais tout à l'heure à Bennett de Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, en rugby, en s'affrontant plusieurs fois. Est-ce que finalement ils nous mettent pas en difficulté, nous Français, parce que ils élèvent le curseur en se retrouvant plusieurs fois?
C'est sûr. J'en suis persuadé. Les Blacks, ils ont battu les Sudaf chez eux pour la première fois depuis 4 ans. La samedi prochain, les Sudaf, Rassi Erasmus, tu crois qu'il va passer la semaine à leur dire que c'était bien ce qu'ils ont fait? Ils vont chercher des solutions.
Ils vont arriver contre nous, ils seront 10 fois trop près. On va dire, attendez là-haut, nous on a joué 4 fois les Blacks, les mecs.
Ouais, nous on jouait d'abord les Fidji et le Japon.
Au mois de novembre. Facile.
Ouais, d'accord.
Pas facile. Oh là là, quel mépris. Quand c'est assumé, ça va. Quand c'est assumé, ça va. Allez, dans un instant, on revient dans les grandes gueules du sport. On va parler Formule 1 parce qu'il y a le Grand Prix des Pays-Bas à 15h. Bah, c'est la dernière fois qu'on va aller sur le tracé de Zandvoort, qui ne sera plus au calendrier l'année prochaine. Un circuit pourtant historique, même s'il était revenu récemment au calendrier. Mais attention, parce qu'il y a certains Grands Prix qui commencent à être remis en cause. Est-ce que la F1 finalement cherche pas plus le spectacle que l'histoire? On va en parler dans un instant avec Jean-Luc Roy qui va nous rejoindre. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, la dernière ligne droite. Dans un instant, les jeux. On est toujours avec Alizé Cornet, avec Julien Beneteau. On a mis un moteur, parce que Marc Macchio a mis un magnifique t-shirt NASCAR aujourd'hui, parce que Marco est un fan de NASCAR. Faut le dire.
NASCAR, IndyCar.
T'es allé aux États-Unis voir des courses? T'es allé où?
La finale à Miami.
Impressionnant, vous?
Ah ouais.
T'étais là, t'étais à la grille,
350 km/h, ouais. 42 voitures sur un ovale. Le grand frisson.
Ah ouais. Bah, t'as mis ce t-shirt, on parle de ça parce qu'il y a Jean-Luc Croix qui rentre, notre voix de la Formule 1.
Je savais que je l'ai mis pour lui aujourd'hui parce que je vais le rendre jaloux parce que je savais qu'il n'avait pas ce t-shirt.
Non, celui-là, je ne l'ai pas, il est magnifique.
Ça va, Jean-Luc? Salut à tous. Dis-moi, dans la discussion, parce qu'on parlait du t-shirt de Marco, j'ai appris qu'il y avait de l'IndyCar autour de la maison Maison Blanche de Donald Trump aujourd'hui.
Bah oui, après le combat de MMA, c'est ça. Il y a un circuit qui a été créé, effectivement.
Et il y a beaucoup de gens qui courent.
Et une manche qui a été rajoutée, effectivement. Alors, on va voir ce que ça va donner. Bon, c'est un petit peu le show, évidemment, mais enfin, c'était pour marquer le 250e anniversaire de cette belle nation.
Moi, j'imagine qu'il va agiter le drapeau à Damien. Hein,
oui, il y a un tour d'honneur de prévu. Le premier tour d'inauguration du circuit, c'est Trump qui le fait.
Et vous n'avez pas été invité à faire une course cycliste, là, avant les championnats du monde, là-bas?
Non, pas pour le moment.
Ça va venir.
Mais tu sais que Trump avait organisé le tour Trump.
en cyclisme. Ah bah oui, ça dit quelque chose.
Et bien sûr, à l'époque de Bernard Hinault et Lemon, il y avait une course à étapes aux États-Unis créée qui s'appelle le Trump Tour.
Il s'est pas cassé la tête pour le tour.
Mais il est régulièrement venu à Indy et à Daytona. Hein. Daytona, c'est son fief, c'est la Floride.
Bon, écoutez, on va parler de circuit artificiel justement dans un instant. Tout de suite, c'est notre sujet sur le buzzer, la Formule 1 avec le Grand Prix des Pays-Bas à 15h sur RMC. Évidemment, tout ça en commentaire. Jean-Luc Lando Norris partira en pôle pour la dernière sur le bouillant circuit de Zandvoort qui va disparaître du calendrier.
RMC, les GG sur le buzzer.
Parce que pour des raisons économiques, le tracé revenu en 2021 va disparaître malgré ses tribunes pleines, son ambiance exceptionnelle et son histoire quand même, puisque même si Zandvoort est revenu il n'y a pas longtemps, il a accueilli depuis 58 des champions comme Prost, comme Lauda, comme Stewart. Une dynamique qui est peut-être en train de s'enclencher en F1, puisque le circuit mythique de Spa-Francorchamps, il parle à tout le monde, hein, comme Monza, comme Silverstone, Spa-Francorchamps, ça veut dire quelque chose. Il ne reviendra qu'une année sur deux, pendant que de nouveaux tracés, comme celui artificiel de Madrid vont voir le jour dans la foulée de Las Vegas, Miami ou Jeddah que l'on a vu ces dernières années. Les GG, je vous pose la question, spectacle ou histoire, que doit faire la F1 avec ses circuits? Parce que là on parle de la F1, mais en fait finalement ça touche un peu tous les sports, hein. Spectacle ou histoire, est-ce qu'on peut y toucher? Spectacle ou histoire, Alizé?
C'est dur.
Un mix des deux?
Un bon compromis entre les deux.
Et dans le sport en général, peut-être.
Moi, j'ai plus tendance à valoriser l'histoire, mais il faut savoir évoluer.
Ouais, moi aussi, j'ai plus.
Histoire.
L'histoire, ouais, mais bon.
Marc ?
Histoire.
Jean-Luc ?
Bah, histoire, bien sûr.
Jean-Luc, la F1, évidemment. Est-ce que la F1 doit se battre pour ses circuits historiques ou en fait, est-ce qu'ils sont dépassés dans la F1 moderne et c'est pour ça qu'on se pose la question ?
Alors, absolument pas. Il faut savoir que la motivation de la FOM qui fait le calendrier, hein, donc maintenant Liberty Media, c'est uniquement le spectacle, le show, pour satisfaire les fans. Le sport n'a plus rien à voir là-dedans. Et là où ça va pas, c'est que normalement, tu avais une opposition pendant longtemps, des dizaines d'années, entre la puissance sportive, c'est-à-dire la Fédération Internationale d'Automobile, et la puissance commerciale qui était représentée par Bernie Ecclestone, bien sûr, vous l'avez connu. Mais Bernie aimait la FOCA, exactement, qu'il avait créé au début des années 80, après avoir été lui-même, je vais pas, là, parce que sinon, là, dans l'histoire, là, je vais prendre tout seul. Donc, il avait créé, lui était patron d'écurie, hein, de Brabham à l'époque. Bon, bref. Et il avait piloté également. Mais Bernie, bien qu'il soit très motivé par les dollars,
il respectait l'histoire.
Il respectait totalement l'histoire. Il en avait bien conscience. Si tu veux, on est à l'époque, on n'est jamais allé sur des circuits uniquement pour l'argent. Maintenant, c'est exactement le critère qui est choisi. J'ai pris le petit calendrier, là, il y a 6 circuits de Mickey, ne me demande pas lesquels. Et les pilotes appellent ça les circuits de Mickey.
Artificiel.
Complètement artificiel. Là, alors, on va parler du Madring, d'ailleurs.
Donc, c'est le nouveau circuit qu'il va y avoir à Madrid qui sort de terre, en fait. Alors, complètement artificiel.
Alors, c'est pas radiophonique, mais je vous montre le tracé, enfin, vous avez compris. Aucun intérêt. Ça fait ce truc-là.
Ah oui, mais c'est pour le spectacle, alors.
Alors, il y a un banking, ils appellent ça le Monumental,
c'est
où il y aura 45 000 spectateurs. Bon, ben, il y a Indy, on en parle hors antenne, c'est bien mieux, ça existe depuis longtemps, le banking n'est pas autant. Hein,
c'est les virages pentus, on va dire.
Il y en a deux, d'ailleurs, vous l'avez vu aussi à Zandvoort, là, hein, qu'ils ont créé, mais ça s'intègre bien. Il y en a un, c'est le virage numéro 3, qui est assez relevé, hein, qui est à 18 degrés, et puis l'autre, le dernier, le droit. Mais c'est naturel, parce que, justement, à Zandvoort, tu as des dunes, ils s'appuient sur le... Là, c'est
Et l'argent, c'est parce que ça rapporte plus d'argent dans la Madrid, par exemple, dans une grande ville.
Maintenant, pour organiser un Grand Prix, si vous en voulez un dans votre cour ou dans votre village, c'est facile. Tu poses 60, la 80 mallette. Millions, et t'as un Grand Prix. Et on se fout de savoir si le tracé va être intéressant.
Alors, en fait, moi, c'est ça qui me dérange le plus.
Voilà.
Bennett. En fait, c'est dans les nouveaux circuits qui voient le jour que la Formule 1 se développe et que c'est dans l'air du temps. Il n'y a pas de souci, mais que le tracé qui sorte de ces endroits-là, sportivement parlant, soit inintéressant, bah pour moi, c'est en fait ils ont tout faux. Parce que tu perds l'histoire et en plus sportivement tu assistes à des courses.
Oui, mais t'as des belles images. Las Vegas, t'as des belles images. T'es sur le Strip, par exemple. Jeddah, ça se fait la nuit. Il y a des belles images. Miami, il y a des belles. Non, mais attendez, je vous dis pas que je défends ça.
Un show.
Tu veux faire l'avocat du diable.
En train de dire que c'est Instagrammable.
Mais oui. Non, mais Alizé. Oui. Non, mais franchement. Mais est-ce que toi tu dis c'est un mix des deux?
Non, mais toi Singapour, quand ils ont fait le premier truc. Singapour, il y a du spectacle.
Voilà. Ils ont su trouver. Pour moi, c'est pas un circuit de Mickey, ni pour les pilotes d'ailleurs.
Exactement. C'est magnifique, ils sont dans la rue, la moindre sortie du vol, il y a du spectacle. T'as la voiture de sécurité qui intervient souvent.
il y a un vrai intérêt. Regardez, à Abu Dhabi, ils l'ont un peu modifié, mais à Abu Dhabi.
Zandvoort, le Grand Prix d'aujourd'hui, c'est celui qui part en pôle, la plupart du temps gagne quand même. Mais bon, c'est la même chose à Monaco.
Oui, mais Alors là, si tu fais intervenir effectivement le résultat, et ça, c'est autre chose. Malheureusement, t'as des contraintes dans tous les sports.
L'histoire compte.
Oui, mais bien sûr.
Monaco,
mais
c'est très important. Voilà. Alizé, toi, sur ça, sur le spectacle ou l'histoire. Par exemple, tiens, il y a une finale à Cincinnati aujourd'hui en Masters 1000. Cincinnati, ça veut dire quelque chose pour le joueur de tennis. Mmh. Est-ce qu'on peut toucher à l'histoire pour se dire demain Cincinnati on le dépasse à Las Vegas?
Cincinnati ils ont pensé à le bouger surtout parce qu'il y avait des contraintes en termes de structure, en termes de d'infrastructure. Le club ne répondait plus aux attentes des joueurs et ils ont pensé à le bouger à Charleston. Au final, le directeur du tournoi a mis l'argent suffisant pour tout refaire de A à Z et le tournoi est resté à Cincinnati.
Oui, donc en fait il faut être conscient que pour rester malgré son histoire, il faut quand même se mettre à la page.
Eh oui, il faut aligner, sinon il y a des tournois, comme on le voit, le Masters féminin qui est allé à Riyad, voilà, en Arabie Saoudite, parce que c'est là où il y a les gros sous.
On parle d'un Masters 1000 peut-être en Arabie Saoudite,
c'est sûr. Féminin, hein, ok. Oui, avec tout ce que ça comporte.
Dans un pays qui est sur les droits, effectivement.
Donc au final, l'argent gagne toujours et c'est un peu dommage pour le sport. Et en même temps, je pense qu'on peut avoir les deux. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, comme vous l'avez dit avec le circuit de Singapour, à un moment donné, c'est juste qu'il faut être suffisamment ambitieux pour développer le sport. Être passéiste à un moment donné, ça c'est limite. Moi aussi je suis pour l'histoire, mais à un moment donné il faut vivre dans l'ère du temps.
Le
il
Masters
faut
aller avec
les technologies et tout
le
ça.
Le Masters 1000 à Paris,
par
qui était
exemple,
à Bercy.
Il a bougé, il y avait pas assez
maintenant,
la salle n'était pas adaptée, le cours numéro 1 n'était pas adapté et au final les joueurs s'adaptent quand c'est pour la bonne cause. Quand l'athlète est gagnant, quand le spectateur est gagnant, là ça se justifie.
Mais là si c'est le circuit de Mickey, ouais.
Voilà, si c'est pas le cas là vraiment tout le monde est perdant sauf la F1 qui s'enrichit là-dessus
en fait. Parce que surtout c'est des disciplines qui s'appuient aussi sur leur histoire. En fait toutes les disciplines s'appuient sur leur histoire et sur la transmission, l'héritage. Et on dit, c'est ce qu'on dit par exemple, on raconte Zandvoort, on dit Prost a gagné là, vous vous rendez compte? Ça fait aussi partie de la légende et c'est la même chose quand on dit Paris-Roubaix, Madio a gagné là, Inaud disait cette cochonnerie.
Il y a un autre truc qui est quand même assez amusant, c'est que pendant 2 ou 3 années, pour des motifs économiques, on a changé la ligne d'arrivée. On l'avait mis dans Roubaix. Et au lieu d'arriver au vélodrome. C'était pas le vélodrome pendant 3 ans. Ça a été une catastrophe.
Ah oui, voilà.
Non, mais par exemple, Marc, sur ça, sur le spectacle, ou on va dire l'histoire. J'en sais rien. Demain, peut-être, je réfléchis à classique. La Flèche Wallonne, par exemple. La Flèche Wallonne, c'est une course qui, est importante que sur le mur de Huy, sur la fin du dernier kilomètre. Peut-être que demain, l'UCI, avec les diffuseurs, vont dire, on a besoin d'une course qui soit intéressante sur 4 heures.
Oui, avec la Flèche Wallonne est un mauvais exemple.
Est-ce qu'on peut y toucher?
Oui, on peut y toucher à la Flèche Wallonne. Pour moi, on peut toucher à la Flèche Wallonne. Il y a des courses auxquelles on peut toucher et d'autres qui sont immuables.
C'est un peu ça, en fait.
Oui,
c'est exactement
elles sont
ça.
Immuables.
Mmh. Immuables.
Nous,
tu vois,
Roubaix,
faut arriver au vélodrome. Si t'arrives plus au vélodrome,
Il faut passer par Rambert, il faut passer par
la tranchée, il faut passer par le carrefour de l'Arme.
Le secteur Madio.
Si tu enlèves ça, tu enlèves l'ADN de la course et les organisateurs ne s'y sont pas trompés, ils sont vite revenus au vélodrome. C'est insignifiant, hein. Vous allez à Roubaix aujourd'hui en temps normal, vous allez au vélodrome, vous dites « Ah, c'est ça le vélodrome ?» Mais quand vous le voyez à la télé le jour de Paris-Roubaix, ça devient un endroit mythique et magique. Et il y a un autre endroit qui est un peu comme ça, c'est Milan-San Remo, la Via Roma.
Là où ce jeu
la Via Roma,
pied du Poggio.
Quand t'es gamin que tu regardes Milan-San Remo, le pied du Poggio, tu te dis « Mais en fait, la Via Roma, c'est tout petit.
C'est une avenue.
Le Poggio, c'est insignifiant. Mais le jour de la course,
c'est rendu mystique,
ça prend une dimension et ça devient un endroit mythique. Et il faut surtout pas toucher à ça.
Mythique et mystique.
Il y a quelques endroits comme ça dans le sport. Et en sport auto, Monaco, c'est la même chose.
Ils ont enlevé la cabine téléphonique. Ils ont enlevé la cabine téléphonique en haut du Poggio. Déjà, ça enlève un peu du mystique.
En Formule 1, être champion du monde des pilotes, c'est le Graal. Et ensuite, t'as des grands prix qui sont historiques.
Gagné à Monaco.
Monaco, Spa. Le Spa, Silverstone, Monza.
Suzuka.
Si encore plus t'es italien ou de chez Ferrari, Monza, c'est compliqué. C'est pas pareil.
Imola.
Imola, mais ça disparaît, Imola.
Une autre.
Bah, bien sûr. Alizé en tennis, gagner à Indian Wells, ça n'a pas la même valeur que gagner, à Cincinnati, par exemple.
Oui, mais à un moment donné, excuse-moi. Quand il y a eu les grands chelems augmentent le prize money énormément. Moi, j'étais joueur, j'ai assisté à des discussions au conseil des joueurs, enfin la réunion des joueurs en Grand Chelem, où il y avait des mecs qui disaient « Mais si Indian Wells, ils mettent 50 millions de dollars pendant Roland-Garros,
Mais nous, on va aller jouer à Indiana.
Ah, bah voilà, c'est bah ça que je veux dire. Est-ce que tout le monde est vraiment attaché à l'histoire?
Mais pas, pas du tout.
Non, je pense pas. Je pense pas, effectivement. Et d'ailleurs, quand il faut défendre certains tournois, bah, on voit que les joueurs, ils privilégient quand même l'argent. Donc, ça dépend vraiment des priorités de chacun. Et ce dont on parlait hier quand on préparait l'émission, c'est que ces compétitions historiques, moi, je trouve que c'est aussi une passerelle entre les générations. C'est quand, voilà, un grand-père va emmener ses petits-enfants. Ah, bah, le circuit, il est là depuis, depuis 50 ans. Bah, moi, j'ai vu l'arrivée de tel coureur. Et en fait, c'est comme ça une passation de savoir, une passation d'intérêt pour le sport au même endroit. Exactement. Et si on perd ça, au final, on perd les souvenirs. Mmh. Et c'est ce qui fait toute la beauté du sport, c'est ça aussi, c'est l'échange, le partage entre les générations.
Spectacle ou histoire que doit faire la F1 avec ses circuits. Est-ce que les pilotes, ils râlent ou ils s'en foutent?
Mais ils râlent.
Est-ce qu'ils sont attachés à l'histoire? Mais en fait, parce que ce sont eux les premiers à défendre l'histoire.
Ils sont jeunes.
Oui, exactement. En plus, ils sont jeunes, ils n'ont pas forcément connu effectivement l'histoire, notamment à Zandvoort, puisqu'il y a eu une interruption très longue, hein, de 35 ans de mémoire. C'est Lando Norris qui en parlait hier, justement, on le sollicitait en lui disant « Qu'est-ce que ça te fait de rouler pour la dernière fois ?» Ben, il dit « Moi, je regrette, je déplore. » Il dit « Pour moi, même moi, il est tout jeune. Hein. » Il dit « Moi, c'est un souvenir extraordinaire. L'ambiance est formidable. Le tracé est intéressant. Pourquoi on s'en va ?» Mais il dit « Bon, on m'écoute pas, de toute façon. On nous écoute pas. »
Mais c'est ça,
on écoute personne.
Ils ont grandi en voulant aller s'étalonner sur les circuits qu'ils ont vus gamins, en fait.
Tu sais, pour élargir le débat, le problème de la Formule 1 aujourd'hui, tu sais très bien que je me bats, c'est des mots ridicules, mais disons, je défends une certaine conception de la Formule 1 qui doit être du sport, c'est le règlement. Débile cette année, mais débile. Et là aussi, pourquoi Max Verstappen est aussi agressif? Parce que les pilotes n'ont plus aucun plaisir, et surtout la part du pilote dans le résultat a été considérablement réduite. Donc ça devient ridicule. Ils sont obligés d'appliquer des procédures auxquelles ils n'entendent rien. Mais il dit, on peut même pas vous expliquer ce qu'on a à faire à bord de la voiture, parce que l'ingénieur n'arrête pas de lui dire, tu tournes, vous l'avez vu, tu tournes telle molette, ils ont pas le temps de piloter.
Oui, donc, pour moi, on dénature en fait, en
on
global
dénature
en fait,
le sport.
Toi,
alors voilà, les circuits en font partie.
Sur le règlement. Et voilà, sur les circuits, c'est exactement un tout actuellement. Tiens, je voulais juste lire quelques messages sur WhatsApp au 0612 424 424, bah, pour aller un peu dans ce sens. Il dit, ce phénomène porte un nom, Pierre, sur WhatsApp, la Netflixisation du sport.
Oui,
F1, tennis, cyclisme ont eu leur série sur Netflix. Maintenant, on ne cherche qu'à faire plaisir à ce nouveau public pour avoir de belles images et des choses belles à montrer. Julien nous dit, pourquoi ce serait incompatible? Qu'est-ce qui nous empêche de dessiner et construire un tracé spectaculaire et intéressant sportivement?
Mais c'est pas le cas.
Dans un pays bankable équipé. Mais c'est pas toujours le cas. Bah c'est ça le problème.
Non, puis Netflix, c'est écrit, c'est un roman. Enfin, les gens qui croient que c'est vrai, c'est un roman. C'est un roman pour intéresser une nouvelle clientèle, comme on dit, en principe jeune, mais qui va passer à autre chose.
Et puis, ça crée de nouveaux récits, de nouveaux épisodes, d'avoir de nouveaux lieux.
Mais bien sûr.
Aussi, d'avoir Madrid, regardez Madrid.
Et puis après, il y en a plein qui jouent un rôle. Hein. Je ne vais pas les citer non plus, mais ils sont pris pour un autre. Là, avec Netflix, alors, ça y est, ils sont sous les feux. C'est n'importe quoi.
Romain sur WhatsApp me dit, dans le cyclisme, il y a les Strade Bianche qui ont fait leur apparition. C'est vrai, cette semi-classique, bientôt classique maintenant, sur les chemins blancs, qui a réussi à s'imposer. Et comme toi, Marc, tu disais, pourquoi pas un jour faire une classique avec Montmartre à Paris. Voilà, donc il y a une place à faire au milieu de l'histoire.
Le Grand Prix de Paris.
Ouais, créer de nouvelles
histoires. On peut créer une nouvelle histoire. Alors là, bien sûr.
Mais pas forcément au détriment de la grande histoire de la Formule. Oh là, on est arrivé à un niveau.
Non, mais la récurrence de certains lieux, Alizé en a parlé, c'est hyper important. Ouais. Nous, Monte Carlo, Rome, ce sont les Masters 1000 qui existent depuis des dizaines d'années, des décennies. Tu vois le palmarès gravé dans le marbre, etc.
Oui, oui.
C'est une passation.
Madrid, la Cajamarica et tout, c'est plus récent. Donc, si on y touche, c'est pas très grave. Et d'ailleurs, dans l'aura de ce tournoi, ça joue à fond.
On parle de Madrid, juste un mot, il y avait Jarama, qui était un petit circuit C2 où il y a eu des Grands Prix de Formule 1 exceptionnels. Je me rappelle de, je crois que c'est Gilles Villeneuve ou Jacques Lafitte qui a résisté à Gilles Villeneuve pendant 45 tours en jouant des coudes et tout. Alors tu vas me dire, oui, il n'y avait pas de dépassement, ils étaient 6 derrière. C'était génial, tous ceux qui ont vu ce Grand Prix. Non, mais voilà.
Il n'y avait pas le halo, ils pouvaient mettre les coudes à l'époque. Comment il s'appelait le Grand Prix, tu disais?
Jarama,
la
française, avec un J-A-R-A-M-A.
J'étais enrhumé. Allez, tout à l'heure, 15h, Grand Prix des Pays-Bas avec Lando Norris, donc sur Zandvoort, évidemment. Les grandes gueules du sport, merci Jean-Luc, on te retrouve sur RMC, bien sûr. Les jeux arrivent avec les GG, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Dernière ligne droite des grandes gueules du sport, tout de suite on joue.
RMC, les jeux du sport.
Et il nous faut un quatrième joueur, notre quatrième joueur de l'été. C'est l'une des voix du tennis sur RMC, notre rédacteur en chef bien-aimé du week-end, Anthony Reich. Ça va,
bonjour. Bonjour à tous. Il y a beaucoup de tennis man et woman.
C'est vrai que là
il y a un plateau.
C'est vrai que t'es un peu seul. Non, mais tu fais du vélo, tu t'arrives. pas trop.
Je cours plutôt que le vélo. Désolé.
Je suis venu en vélo électrique cette semaine, Marco, mais je joue pas.
Bien, c'est un début.
Je vais réinvestir dans un vélo d'ailleurs. Donc, je te demanderai quelques conseils. Bonjour, on se raconte notre vie comme ça. On a l'antenne. Je vous rappelle, c'est du 2 contre 2, vous défendez un auditeur. Répartition des équipes. Alizé Cornet avec Anthony Reich et donc Julien Beneteau avec Marc Madio.
Sauvé.
Je rentre de vacances.
Ça veut dire quoi, ça,
Marc? Sauvé, parce que c'est le king.
Attention, parce qu'Alizé a gagné hier. Alizé,
Alizé,
une année dans les GG. Déjà maintenant, elle est incollable sur le vélo, incollable sur le
vélo. C'est vrai que ma marge de progression est énorme.
C'est ça, maintenant tu vas dans
sur l'écart de taille entre
le PSG fait n'importe quoi. Le PSG fait n'importe quoi. Mais qui es-tu devenu, Alizé? La question impossible.
Matrixé par les GG.
Activable par un seul joueur par émission. Une bonne réponse, c'est 3 points. Une mauvaise, c'est 1 point en moins. J'accueille les auditeurs. Sarah qui nous appelle des Deux-Sèvres. Salut Sarah.
Bonjour.
Et salut Léo du Vaucluse.
Salut.
Les amis, vous choisissez votre équipe. Sarah, c'est toi qui as appelé en premier. Est-ce que tu veux être avec l'équipe Alizé Cornet, Anthony Reich ou Bennett Madio?
Avec Alizé Cornet.
Sarah.
Ça.
Voilà.
Let's go.
Et Léo. Toi, t'es très let's go et vamos.
Ouais.
C'est en ironie,
ça. Vamos.
Allez, je rappelle que vous pouvez faire gagner 50 euros, un bon cadeau sur Agfa Photoprint pour les auditeurs. Anthony essaie de tricher d'entrée de jeu.
Non, je cherche un stylo.
Je cherche un stylo.
Tu fais bien. La question élimination, à chaque fois, je l'oublie.
Non, mais c'est incroyable. C'est le syndrome de Christophe Cessieux. Allez, c'est parti. Question à une seule réponse. La France en finale de l'Euro de Ceci Foot. Elle affrontera l'Angleterre qu'elle a déjà rencontrée en début de tournoi. Quel était le score?
2-1.
Une seule réponse?
Une seule réponse.
Ah bon, 2-1.
1-0.
Non.
3-1.
4-0.
C'était 4-1, personne n'a la réponse. Je précise que c'est Maxime Abolin, notre producteur, qui a fait les questions aujourd'hui, et il est particulièrement exigeant. C'est-à-dire que là, il veut vous amener. Tu sais, c'est le champion qui veut t'amener à un nouveau niveau, quoi. À quelle minute a marqué Fred Mirou? À une minute près. Allez, 0-0. Question à plusieurs réponses. Quel ancien joueur de l'OGC Nice va de nouveau signer au club? Qui comment?
Wai.
Eli Wai.
Mais la question n'est pas terminée.
Bennett Madio. Mais s'il a la bonne réponse, ça marche. Question auditeur, c'est pour vous, Léo et Sarah, le plus rapide de l'emporte. En Formule 1, qui est en tête actuellement du classement des pilotes?
Antonelli.
Sarah.
Ah, Antonelli. Ah, là, il fallait que tu ailles direct, Sarah. Faut pas donner ton prénom, faut y aller direct. Antonelli, donc et ben, ça fait 2-0 pour l'équipe. Bennett Madio. Question, le plus proche l'emporte. Question à une seule réponse. Combien de clubs de Ligue 1 ont changé de coach depuis le début de la saison dernière? 12.
Je t'écoute, Georges.
Non mais réalisé.
12 sur 18 même t'as dit hier.
Ok, et donc comme tu viens de prouver, tu as désormais droit à la question bonus pour un point
en plus. C'est quoi la question bonus?
C'est nous.
On me les dit pas.
Est-ce que t'es capable de me dire les 6 clubs qui n'ont pas changé d'entraîneur? C'est bonus.
Les 6 en plus.
Ouais, ils n'ont pas changé d'entraîneur.
Non, je pourrais t'en citer un, mais même pas 6.
5, 4, 3.
Non, je les aurais pas.
Allez, mais le PSG, Le Mans, Le Havre, 3, Lyon et Rennes. C'est bien que j'en
parle. Le Mans, 3, j'avais jamais.
C'est bien d'assumer ses limites avec les champions. Marc est bien content de ne pas l'avoir eu. Allez, ça fait toujours 2-1 pour l'équipe Bennett Madio. Question à plusieurs réponses. Les Bleus du basket jouent à Orléans aujourd'hui à 18h. Contre qui?
Serbie.
La Serbie.
Ah, je savais ça.
3-1. Bien joué. Question auditeur, Léo et Sarah, le plus rapide l'emporte.
Allez Léo.
Allez Sarah.
Alors que le championnat d'Espagne de football a repris hier, enfin a repris cette semaine, la Liga, mais sans Antoine Griezmann. Dans quel pays il joue désormais?
États-Unis.
Bien joué Léo, 4-1, États-Unis. Allez, question élimination, pour 2 points, vous répondez à tour de rôle. Il reste du temps, hein. Et il y a la question impossible qui peut être activée. Seulement 3 points d'écart. Vous répondez à tour de rôle. Une erreur et vous êtes éliminé. Oh, notre producteur, il est vache quand même. Parce que là, Marco, si tu tiens à distance, t'es bon. Citez-moi tous les Français à avoir atteint les demi-finales en Masters 1000 depuis la création en 90. Tous les Français qui sont allés en demi-finale en Masters 1000 depuis la création en 90. Allez, Marc, on commence par toi. Des Français, des joueurs de tennis qui sont arrivés en demi-finale en Masters 1000 depuis 90.
Masculin, pas français.
Masculin, okay. Masters 1000.
Forget,
c'est le premier que j'avais. Anthony.
Tsonga.
Bennett.
Pioline.
Cédric Pioline, c'est bon. Alizé.
Gaël, mon fils.
Gaël, je le connais personnellement, je l'appelle par son prénom. Marc.
Fils.
Arthur Fils, bien sûr.
Bennett.
Fils d'abord.
Oh là là.
Bon, tu dis
non,
fils ou
Il a dit fils, il a dit fils.
Il dit fils ou fils, oui. Tu vas aller de fils, ok. Anto?
Gilles Simon.
Gilles Simon. Ménette.
Gasquet.
Gasquet, ok. Alizé.
J'allais dire Gilles, putain.
On cherche les demi-finalistes français en Master 1000 depuis 90, depuis la création. 5, 4.
Attends, je l'ai.
3.
Attends, tu mets la pression. Ménette.
Bennett, c'est bon. Bravo Bennett.
Mais je sais pas, il se dit pas lui-même, alors ouais. C'est bizarre.
Bennett, t'aurais pu dire Bennett, comme Mourinho, tu vois. Marc.
Lecomte.
Henri Lecomte.
J'ai failli dire, je pense pas.
Et non, c'est avant. Ouais. Éliminé, oh. Marc Madio. Anthony Reich.
Seb Grosjean.
Seb Grosjean, bien sûr, je m'appelle Seb. Bennett.
Mastersmith.
Oh, attention, 5.
Rinderknecht,
ah, et oui, beau, bien sûr, l'année dernière. C'est beau, il en reste beaucoup. Hein. Alizé.
Je vais en tenter un, je suis vraiment pas sûr.
On cherche les demi-finalistes en Mastersmith depuis la création 90. 3, 2.
Humbert.
Hugo Humbert, ça passe, attention. Allez, Anthony. 5, 4, 3.
Gaël Monfils,
déjà dit, éliminé. Bennett.
Je pense.
5.
Laudra.
Mickaël Laudra.
Mais oui,
c'est bon.
Bien joué.
Alizé.
Arnaud Clément,
c'est bon. Voilà.
Oh, le duel de tennis. Sauvé.
Allez. Bennett, 5, 4, 3, 2, 1. Sorti. Pouille sur un. Allez, sur
non.
Le buzzer. J'accepte.
C'est bon.
Validé. Alizé. 5, 4, 3, 2, 1. Éliminé.
J'avais levé les bras.
Il restait déjà. Benoît Paire, Terence Hatman, Fabrice Santoro, Jérémy Chardy, Arnaud Butch. La victoire.
Ah, c'est bon.
Et pour l'équipe, Bennett Madio. Tu voulais déjà activer la question impossible, mais arrête d'avoir le diable en toi. C'est pas possible. Bravo Léo. C'est toi qui t'as imposé. Merci Sarah d'avoir été avec nous dans les jeux.
Les jeux du sport sur RMC avec Agfa Photoprint. Gagnez 50 euros de bons cadeaux pour éditer un album photo ou développer vos pellicules et appareils jetables à petit prix en moins de 10 jours.
Merci les amis. Marco, t'as tenu la distance, hein, comme quoi, accompagné par les tennisman.
Ah,
sur
fort.
Le tennis, tu commences à devenir.
Moi, j'avais le meilleur équipier au monde.
Ah, c'est ça.
Non, mais
Marco, il va devenir injouable avec vous. Il va dire sur la diagonale revers et tout, il va falloir qu'il évolue. Et les autres vont te dire sur les watts, là, quand même, à 210, je pense qu'il peut pas y aller. Merci Marc, merci Anthony, merci Bennett, merci Alizé. Bon vol pour l'US Open, tu nous raconteras comment ça s'est passé à l'US.
Ouais, ça marche, on se voit dans 2-3 semaines.
Allez, les paris RMC, restez avec nous, arrive tout de suite avec Johan Brezov. Restez avec nous sur RMC.